Oui, effectivement, donc depuis Pogny-la-Forêt, depuis la salle des fêtes, donc de Pogny-la-Forêt, deuxième heure donc de cette matinée sportive. Hein, on va parler de ballon ovale d'ici quelques minutes avec Tribune Rugby, mais on va revenir, Jean-Claude, sur eh bien, ce qui va se passer encore aujourd'hui. Hein. Il y aura naturellement donc la venue du variété, on va le détailler. On aura notamment la liste hein, des joueurs qui participeront à ce match. Mais d'abord, un petit bilan de ce qui s'est passé hier à travers d'abord la Gentleman Cycliste. Alors, il y a eu un petit changement sur la Gentleman parce que ça a eu lieu sur le petit circuit. Hein.
Oui, effectivement. D'abord, bonjour à tous. Hein. Et merci à RVE de faire son émission à Poigny. Donc, les trentenaires de l'US Poigny ont donc commencé hier. Et effectivement, le matin, c'était dédié à notre section cycliste avec la Gentleman où, effectivement, il y a eu un petit circuit parce que les grands amateurs de la bicyclette, malheureusement, étaient absents et donc on s'est reporté sur un petit circuit.
Oui, puis je crois qu'il y avait quelques travaux qui ont obligé
effectivement
les
actuellement.
À se replier.
Voilà. Mais il y avait quand même 26 équipes donc pour la saison qui est en début de saison avec des critériums un peu partout. C'est un bon bilan.
Donc ce député, donc Jean-Frédéric Poisson, et puis également le maire adjoint chargé des sports, M. Bernard Valette.
Oui. Oui, effectivement. Je pense que maintenant, c'est des habitués de cette course, quoi. Le gros regret, c'est que nous avons malheureusement pas eu de parrain au niveau de cette épreuve. On avait sollicité Bernard Thévenet et malheureusement, quelques jours avant, j'ai su qu'il n'était plus disponible.
Est-ce qu'on a les sommes collectées au cours de cette gentleman hier?
Ah bah c'est très simple, oui. C'est 2 euros par participant.
D'accord.
Donc 26 multiplié par 2 euros, vous faites la somme que le cycliste va pouvoir donner à l'association ELA.
Alors l'après-midi, il y avait le tennis.
L'après-midi, effectivement, le tennis, bon, c'était des petites rencontres ludiques où malheureusement on n'a pas pu faire ce qu'on avait souhaité au départ, c'est-à-dire avoir un ou deux grands noms de façon que les joueurs de Poigny puissent faire un set contre eux, de façon également à reverser les sommes collectées à ELA. Donc malheureusement, ça n'a pas pu se faire.
Donc là aussi, combien a-t-on
Là, on a comme on n'a pas pu mettre en place cette organisation, malheureusement, on n'a rien récolté.
D'accord.
Alors, là, c'est mon grand regret.
Alors aujourd'hui, donc on l'a dit, on l'a évoqué avec Henri Émile. Hein, donc c'est la troisième fois que le Variété Club de France donc vient à Poigny, dans le cadre donc pour l'association ELA hein, d'un match amical contre une équipe de la communauté.
Oh oui, effectivement. On a voulu un peu mettre la communauté de communes dans la boucle, de façon à faire un impact plus important. Puisque bon, effectivement, Poigny c'est bien, mais la communauté de communes c'est quand même plus important. Et on a fait une sélection des 6 équipes vétérans de cette communauté de communes.
Et je sais qu'ils sont prêts à battre de variété. Hein.
Ah ben c'est le but. On a un manager de choc avec l'un des dirigeants de l'association Aller les Verts de Rambouillet, qui est partenaire également de l'association ELA.
D'accord.
Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on a été, nous également, partenaires d'ELA pour cette rencontre, pour ces 30 ans de l'US Poigny.
Alors on connaît déjà certains grands noms hein, qui vont venir. Bah, le plus grand, c'est Dominique Rocheteau.
L'Ange
Vert.
L'Ange Vert, effectivement. Je pense que c'est sûrement lui qui sera sûrement le capitaine. Le capitaine de cette équipe du variété, effectivement, Vendroux m'avait indiqué qu'il nous gâterait. Philippe, je vous laisse lire la composition de l'équipe.
Il y a aussi Gilles Moreton, hein, l'ancien grand tennisman. Il y a donc également Albert Courriol, hein, et puis notamment René Girard aussi, parmi les noms donc les plus connus, qui donc disputeront ce match avec le variété, donc à partir de 15h contre cette équipe de la communauté. Le droit d'entrée, on va le rappeler, Jean-Claude.
Droit d'entrée 5 euros. Donc, reversé intégralement à ELA. Également, si vous voulez, le match commence à 15h, mais à partir de 14h15, on a notre groupe local du rock qui va se produire et interprète donc des chansons pour les Verts et a fait une composition pour ELA également.
Très bien.
Donc ça va être un moment formidable et, et le coup d'envoi sera donné donc à 15h.
Monsieur le député, hein, c'est ça.
Monsieur le député et également un enfant, Alexis, et également Alexis. Voilà.
D'accord. Et ben juste justement, on a le papa d'Alexis, donc membre de l'association est là. Ah, c'est le papa d'Alexis, d'accord. Ok. Donc qui est là, mais il y a aussi le président, c'est ça? Bonjour.
Bonjour. Non, je suis le secrétaire général et également donc membre fondateur donc de l'association est là. J'étais dans la région parisienne jusqu'à la fin 2006. Et effectivement, depuis le début d'année, j'ai rejoint l'équipe de Nancy pour me consacrer à plein temps à l'association est là.
D'accord. Alors très brièvement. L'association ELA, c'est quoi? Ça concerne quel type de maladie?
Alors, l'association ELA, c'est avant tout une association de parents. Donc, moi, j'étais confronté au diagnostic de la maladie donc, en 1990. Et avec d'autres parents, dont notamment donc, Guy Alva, qui est président d'ELA, on a décidé de ne pas baisser les bras, de ne pas accepter la fatalité et de monter une association. Et en 92, donc, est née l'association ELA, l'association européenne contre la leucodystrophie. Donc les leucodystrophies, c'est donc des maladies génétiques rares qui touchent la myéline, c'est-à-dire la gaine qui entoure les nerfs. Un peu à l'image donc, d'une gaine qui entoure un fil électrique. Si cette gaine se détériore, donc il y a court-circuit, le courant ne passe plus. Là, c'est le cas donc également pour la myéline. L'influx nerveux n'est plus véhiculé et automatiquement donc l'enfant qui est atteint de cette maladie est privé de certaines fonctions donc comme l'équilibre, la marche, la vue, l'ouïe, et ça conduit assez rapidement à un handicap très lourd et trop souvent encore au décès de l'enfant.
D'accord. Alors, l'association est là, naturellement, est en partenariat avec beaucoup de clubs sportifs, et le sport est parmi donc les secteurs les plus importants hein, pour collecter de l'argent pour votre association.
Tout à fait. C'est-à-dire que ben, déjà, à la base, je dirais, il y a Guy Alba, donc président d'ELA, qui est professeur d'éducation physique et sportive, et qui a eu la chance de naître à Jeuf en 1955.
Et donc, d'aller à l'école.
Comment ?
Le pays de Michel Platini.
Le pays de Michel Platini, et donc Guy Alba était à l'école avec Michel Platini. Donc effectivement, il y a donc des liens entre Ella et Michel Platini qui se sont faits donc tout naturellement. Et également donc lorsqu'on a décidé de gérer donc pour Ella de faire quelque chose au niveau des écoles, ça s'est fait à travers du sport.
D'accord. Alors vous avez des parrains justement prestigieux hein, dans le domaine du sport.
Oui, ben entre Zinedine Zidane qui est le effectivement numéro un français, et c'est vrai qu'effectivement bon il n'y a pas que Zinedine Zidane, mais donc l'arrivée de Zinedine Zidane a vraiment boosté l'association et là parce qu'il nous a ouvert beaucoup de portes, que ce soit au niveau des médias, de la télé, également de enfin de partenaires comme Danone ou le groupe Pino Printemps Redoute.
Quels sont les autres sportifs qui aussi s'investissent dans votre association?
Un sportif de tout début dès là et qui est encore sportif maintenant, mais à l'époque il était champion du monde de ski, c'est Luc Alphand, qui a été l'un des tout premiers parrains dès là, qui d'ailleurs a participé à deux émissions donc Fort Boyard pour Ella en 1995 et 97, et qui aujourd'hui continue à nous parrainer, et donc ben maintenant il court en voiture, et encore donc aux dernières 24 heures du Mans, donc le team Luc Alphand Aventure a donc sponsorisé est là, et il y a eu donc une entente avec l'Automobile Club de l'Ouest et le team Luc Alphand Aventure, et il y avait donc 1 euro qui était reversé par entrée payante aux 24 heures du Mans, et donc ça fait une manne de 100 000 euros qui est tombée pour Ella.
Et vous avez aussi des partenariats avec des clubs sportifs, notamment des clubs professionnels. Hein, on était l'année dernière sur Saint-Étienne. Vous avez notamment avec ce club-là ou Guignon aussi un partenariat donc important.
Tout à fait. C'est-à-dire que le premier partenariat, ça a été avec le club de Nancy, puisque historiquement, lorsque Ella a été créée, donc Guy Alba, qui était son président, était sur Nancy. Et effectivement, l'un des premiers partenariats, c'était avec la SNL. Ensuite, il y a d'autres clubs qui nous ont rejoints, comme le Toulouse Football Club. Les Verts également. Il y a eu Rennes qui nous a rejoints à travers donc François-Henri Pinault. Et là, tout dernièrement, et grâce aussi à Henri-Émile, que je voulais remercier, il y a un partenariat qui s'est fait avec le FC Guignon, qui par contre est un partenariat, c'est le premier en France, où le club de Guignon porte le logo d'Ella comme partenaire principal sur le maillot. Et à part donc le club de Barcelone qui l'avait fait avec l'UNICEF, c'est la première fois en France que ça se voit, oui.
Est-ce qu'il y a des fédérations aussi sportives avec lesquelles vous travaillez plus que d'autres? Il y en a qui sont plus réceptives aux organisations que vous organisez?
En général, je ne vais pas parler des fédérations, mais au niveau des sportifs, les sportifs savent quelle est la valeur de la santé et donc de la bonne forme physique. Et c'est tout naturellement que lorsqu'ils peuvent nous soutenir et nous parrainer, ils le font vraiment avec un grand cœur, oui.
Alors, il y a des épreuves importantes qui reviennent régulièrement dans l'année, tant sur le plan national que sur le plan régional.
Oui, alors au niveau donc des épreuves avec des partenaires, il y a la Danone Nations Cup effectivement qui est en partenariat avec ELA, encore cette année donc à Lyon nous étions présents. Il y a également donc au travers du groupe Danone l'Evian Master. Et un master de tennis de golf féminin, pardon. Et nous étions encore présents donc fin juillet. Ensuite, il y a les 24 heures du Mans.
Ah oui.
Ça fait donc la troisième année consécutive que nous sommes présents. Et également, donc nous étions présents début juin, toujours avec Henri-Émile, qui est un ami d'Ella et qui nous soutient, à Saint-Jean-de-Mont, où il y a eu 5000 jeunes entre 5 et 10 ans, qui ont, donc c'était la journée des débutants, et qui, le temps d'une marée basse, ont fait un tournoi de foot. Donc c'était ahurissant, parce qu'il fallait voir à 8 heures la plage était déserte, donc la mer a commencé à se retirer, et à 11 heures, il y avait plus de 5000 gamins qui ont joué sur 200 stades, qui ont fait un tournoi et plus de 2000 matchs, et donc qui ont terminé vers 13h30 en formant le logo d'Ella, qui était une photo prise d'hélicoptère qui était géniale.
Alors je crois savoir qu'il y a aussi des grosses opérations, comme l'opération Mettez Basket, hein, c'est ça? Ça consiste à quoi?
Donc l'opération Mettez Basket est créée depuis 1994, donc on est dans les écoles, c'est une opération à la base effectivement de collecte de fonds pour l'association ELA, mais on se veut également donc opération citoyenne, c'est-à-dire que on a donc un DVD d'une quinzaine de minutes au travers duquel les enfants donc des écoles, ce soit aussi bien les écoles primaires, les collèges que les lycées, sont sensibilisés donc à la maladie, donc au leucodystrophie, donc à l'association ELA, mais également donc au handicap et à l'intégration donc de l'enfant handicapé. Et ces enfants ont pour but de trouver des parrains, donc que ce soit un voisin, le commerçant du coin, le grand-père, qui va donc sponsoriser en général les kilomètres qu'ils vont courir. Et donc le jour J, donc les enfants viennent avec leur carnet de parrainage et remettre leurs dons. Et donc un événement sportif, en général c'est une course à pied, et les enfants prêtent leurs jambes, donc là c'est vraiment symbolique, les enfants des écoles prêtent leurs jambes aux enfants d'Ella qui ne peuvent plus courir et remettent leurs dons, donc qui sert aux objets sociaux d'Ella, qui sont donc l'aide aux familles et le soutien de la recherche.
Il y a d'autres opérations qui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui sont prévues, importantes?
On a une opération importante qui est Stade en fait, qui encore s'est déroulée cette année, donc lors de la dernière journée de Ligue 1 du championnat de France de football, où nous étions présents à Marseille avec Zinedine Zidane, où nous avons donc, il y a eu donc place de Seyndorf à un match de football avec des parrains d'Ella et des enfants handicapés, et ensuite Zinedine a donné le coup d'envoi du match de football de Marseille avec un enfant d'Ella.
D'accord. Je crois qu'il y a un petit quelque chose à rajouter. Allez-y.
Donc l'opération.
Allez-y, c'est pour vous. Allez-y, profitez-en.
L'opération Mettez Basket et Bala Maladie se déroule pendant toute l'année scolaire. Et par contre, il y a le 1er octobre, donc ça va être la quatrième année que ça se fait, le lancement de cette opération Mettez Basket au travers d'une dictée.
Ah oui.
Donc une dictée qui sera lue le même jour à la même heure. Donc ça sera le lundi 1er octobre à 10h. Actuellement, j'avais les chiffres hier, il y a plus de 1200 établissements scolaires qui sont inscrits à cette dictée. année. Et cette année, donc, après M. Picouli, c'est Daniel Pénac qui a écrit le texte de la dictée. Donc le texte, ça s'appelle donc, Le Jardin d'Ella. Et c'est un message vraiment d'espoir et de solidarité. Donc il sera lu à tous les enfants. Et normalement, donc, les collèges, établissements scolaires qui font la dictée s'engagent effectivement ensuite dans l'année scolaire à participer à l'opération Mété Basket.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci. Hein. Puis on va rappeler donc, que le coup d'envoi sera donné par effectivement cet après-midi. Hein.
Ben, donc merci justement à tous les organisateurs, à Henri-Émile, parce que quand on est parent d'un enfant atteint de maladie, donc de leucodystrophie, comme c'est mon cas également, c'est toujours avec un grand bonheur, une grande émotion, qu'on voit qu'il y a des gens qui se mobilisent donc autour de nous, et ça nous redonne de l'énergie, et vraiment c'est super.
Très bien. Jean-Claude, un petit mot à rajouter?
Tout simplement, j'invite tout le monde, tous les habitants de la région à venir cet après-midi à 15h au stade. Donc venez plus tôt, venez à partir de 14h15. Et en même temps, il y a une grande tombola avec des enveloppes toutes gagnantes. Il y en a 630. L'enveloppe est à 2€ et sera donnée intégralement à l'association ELA. Alors, venez nombreux. En plus, un plateau prestigieux.
Et il y a un ballon dédié.
Il y a également, oui, j'allais complètement oublier, Bruno Martini nous a offert un ballon qu'il a fait signer à tous les joueurs de l'équipe de France professionnelle de football. Et il sera mis aux enchères, bien sûr, au profit d'Ella. Donc, très, très grande journée. Venez nombreux. Madame la ministre sera là. Monsieur le député sera là. Les maires de la communauté seront là. Et tout ça en soutien d'Ella. Et cette opération a commencé avec nos 30 ans de l'US Poigny à partir d'hier, où nous avons 220 licenciés avec les quatre sections, tennis, cycliste, cyclotouriste et football. Merci à tous, il fait très beau, vous avez la buvette et vous ferez une super opération. Donc c'est un après-midi à venir à Poigny-la-Forêt, à notre stade Henri-Émile. Merci à tout le monde.
Très bien, je suis sûr que ça va être, les gens vont être très réceptifs à ce message. Il y aura beaucoup de choses cet après-midi, il y aura même les courses. Alors je vais rappeler les pronostics, ensuite on va marquer une pause musicale et puis on passera au ballon ovale. Donc dans la première, notre ami Jean-Claude nous conseille le 11, le 3 et le 6. Deuxième donc course, le 13, le 11 et le 9. Troisième course, le 3, le 13, le 12 et le 11. Quatrième course, le 7, le 6, le 13 et le 14. Cinquième course, donc il y a 5 pronostics de la part de notre ami Jean-Claude, le 2, le 4, le 17, le 11 et le 10. Sixième course, 9, 6, 17. Septième course, 16, 13, 12. Huitième course, 16, 14, 11. Neuvième course, le 11 et le 10. Et dixième et dernière course, hein, parce que comme l'a dit Jean-Claude, il y aura 10 courses aujourd'hui prévues pour cette avant-dernière réunion de la saison, le 8 et le 5. Et puis Jean-Claude, on a aussi profité pour nous donner le quintet de Longchamp aujourd'hui. Donc le 8, le 3, le 2, le 10, le 1 et le 17. Donc vous voyez, énormément de choses un peu partout donc aujourd'hui, mais ça n'empêchera pas les gens de venir très nombreux ici, donc à Poigny-la-Forêt, au stade Henri-Émile. Voilà. Un deuxième break musical et ensuite on passe au ballon ovale tribune rugby. Oui, je crois que le générique a été oublié une nouvelle fois, Jean-Michel. C'est pas bien grave. L'essentiel, c'est qu'on soit donc à l'antenne. Donc,
pourtant, un si beau générique, un petit peu dommage.
Tribune rugby, donc on l'a dit, un tout petit peu plus court exceptionnellement aujourd'hui, mais on retrouvera une heure d'émission dès la semaine prochaine. Alors, Jean-Michel, que s'est-il passé cette semaine sur le mondial de rugby? Est-ce que la pression est un peu, la ferveur est un peu retombée suite à la défaite du 15 de France?
Oui, mais ça va redémarrer à partir de ce soir. Mais... Non, la ferveur est un petit peu tombé, c'est beaucoup dire, parce que le rugby n'est pas le foot, quoi. Bon, il va falloir attendre un peu que ça se décante au niveau de l'équipe de France pour que on ait une réelle ferveur, quoi. Bon, et je pense que à partir de demain matin, les choses ne seront plus comme avant, quoi. Et, bon, alors il s'en est passé des choses cette semaine, c'est sûr. Il s'en est passé beaucoup de choses, et notamment des chocs entre titans tels que, par exemple, l'Afrique du Sud contre l'Angleterre.
Quel match des Africains.
Exceptionnel. Mais j'aime un petit papier là-dessus, à ce sujet. Et puis hier soir, où avec 5 minutes de plus, les Irlandais passent à la trappe. Hein.
D'accord.
Avec des Géorgiens d'une qualité exceptionnelle sur le plan physique. Et alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait lors de la dernière émission. On parlait des pays émergents. Les pays émergents qui souffrent en général au niveau du PAC. c'est normal. C'est tout un métier, c'est tout un art, c'est tout un historique, c'est toute une culture, le PAC. Alors, en général, je dis bien en général, les pays émergents sont très très bons manieurs de ballon derrière et beaucoup moins bons devant. Or, hier, ce à quoi on a assisté, c'est exactement l'inverse. Bon, pour différentes raisons. Parce que quasiment toute l'équipe de devant joue dans le, peut-être pas en Pro D1 mais en Pro D2 en tout cas, et ce sont des gens qui sont rompus au travail des avants et aux entraîneurs, notamment Broncan, puisqu'il y a eu pas mal de Géorgiens qui sont passés entre ses mains à Auch. Ce sont des gens qui sont attention, passer entre les mains d'Henri Broncan, c'est pas rien. Hein.
Mm-hmm. Oui,
il faut le savoir,
oui, pareil,
hein. c'est un véritable sorcier. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, si Agen l'a prise, c'est pour les faire remonter.
Ouais.
Ils tiendront pas financièrement, les pauvres Agenais, mais par contre, vous allez voir un petit peu la saison qu'ils vont faire.
Mm-hmm.
Et Henri Broncan, ne l'oublions pas, est consultant de l'équipe de Géorgie,
d'accord,
actuellement. Donc
ça peut
c'est pas
quoi.
Un hasard quoi.
Mais
c'est pas du tout un hasard
là, quoi.
Et je sais pas si on disait tout à l'heure en antenne avec Jean-Luc 5 minutes de plus et ils passent à la trappe.
Mm-hmm.
Ils passent à la trappe parce qu'ils étaient ruinés, les Irlandais, ils n'en pouvaient plus, ils étaient sur les rotules. Et les Argentins, les Géorgiens pardon, avec leurs petits moyens nous ont démontré qu'il n'y avait plus de grande équipe quoi, en face d'eux. Ils ne craignent personne, et attention, il va falloir faire très attention, nous, face à eux.
Ce sera le dernier match à Marseille, hein. Ce sera
absolument
dans 15 jours pour l'équipe de France. Ouais.
Alors j'ai envie de revenir quand même sur le choc des titans Angleterre, Afrique du Sud. Le Stade de France a peut-être été le théâtre vendredi soir d'un passage de témoin entre le champion du monde en titre et l'Afrique du Sud, qui sont de plus en plus aptes à menacer les Blacks. La maîtrise de l'Afrique du Sud fut au moins aussi impressionnante que l'incapacité des Anglais à déstabiliser l'édifice des box. La démonstration de ces derniers a débuté dès la 5e minute, rappelez-vous, quand le PAC sud-africain a imposé aux Anglais un groupé pénétrant avant de jouer à merveille un côté fermé avec Duprez et Pietersen et conclu par Smith. Il y avait déjà, à cet instant, un résumé de la rencontre. La puissance des Sudaf, alliée à une dextérité et une efficacité redoutables, même si en première période les box ont manqué un essai quand Foury a lâché le ballon à 1 mètre de l'embut, une occasion vite oubliée grâce aux 5 dernières minutes de la première période avec une pénalité de Montgomery et un essai de Pietersen, né d'un ballon récupéré sur lequel Duprez accomplit une nouvelle fois un travail remarquable. Alors, face à cette démonstration, les Anglais ont bien tenté de forcer la décision par leur 8 de devant, qui a parfois contrarié la machine Bock, mais les hommes de Corey ont ensuite tapé dans le mur sud-africain par impuissance et un manque total d'imagination. Une constance chez eux depuis plusieurs rencontres. Hein, on l'a bien vu. Le cauchemar des Anglais, qui accusait déjà 20 points de retard à la pause, s'est poursuivi en deuxième mi-temps avec la perte de Jason Robinson. Dommage. Le manque de vitesse et de créativité n'a pas permis aux champions du monde de revenir dans la partie. Et ce sont au contraire les Sudaf qui ont inscrit un troisième essai sur lequel le demi de mêlée Bock fut encore décisif, contournant tout le pack anglais pour s'offrir sa troisième passe décisive du match. Avec une telle mainmise sur la rencontre, les Bock se sont permis de faire beaucoup de changements tout en gardant leur ligne inviolée, humiliant ainsi les champions du monde en titre.
Oui.
Voilà, je voulais y revenir parce que je crois que ça a été le match
de
le
la
match
semaine quoi.
Phare, oui.
Oui,
le match phare
semaine,
parce qu'on s'est rendu compte que physiquement et techniquement c'était le meilleur match au moins depuis le début de la saison.
Oui, on va faire
depuis le début du tournoi.
Un petit point d'ailleurs sur le résultat de la semaine, hein, qu'on note au fur et à mesure pour ne pas oublier. La semaine dernière, dans le groupe A, justement, l'Afrique du Sud avait auparavant battu les Samoa 59-7,
oui.
Jean-Michel. Hein. Les Samoa comptent une bonne demi-heure.
Et quel match
sympa aussi.
Il me tarde d'être à 16h ce soir parce que Samoa-Tonga du côté de Montpellier, ça va être une partie de.
Oui.
Hein, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc?
À mon avis, ce sera un match tout à fait flamboyant et je crois que si vous voulez voir du rugby, tout le monde peut se poser devant son poste.
C'est du rugby samba, non? Ça sera ça, non?
Pas du côté samoan.
Ouais, ouais.
C'est pas la samba du côté samoan, peut-être chez les Tonga.
C'est une façon de parler. Hein.
Ouais.
Alors, donc, effectivement, on va noter que le Tonga avait battu les États-Unis 25-15 et donc l'Afrique du Sud très largement en tête après sa victoire 36-0. Alors, le groupe B. donc il y avait eu le match entre le Pays de Galles et le Canada, 42-17 pour le Pays de Galles. Ouais. Japon-Fidji, 4 petits points pour les Fidjiens, 35.
Mais alors quel match ?
31, oui.
Quel match ?
Oui.
Les Toulousains s'en souviennent. Hein. Mm-hmm. Et alors, je signale quand même, lors de la dernière émission, on était avec Jean-Claude ouais. Séguier, et Jean-Claude Séguier mettait l'accent sur le fair play de ce tournoi. Et rappelez-vous, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table a vu ce match, mais personne ne l'a vu. C'est sur le plan fair play exceptionnel,
ouais. Puisque d'honneur, ouais, avec
les Fidjiens ont rappelé les Japonais pour leur faire faire un tour d'honneur, mm-hmm. et pour une standing ovation, c'est fabuleux, quoi.
Ouais.
Il n'y a qu'un rugby que moi ça, quoi.
Mm-hmm. Et puis il y a eu aussi hier un match entre le Pays de Galles et l'Australie, victoire 32-20 de l'Australie.
Oui, mais sans trop forcer, quoi. Hein.
Oui.
Sans trop forcer, on a retrouvé. Bon, il faut dire que les Gallois n'étaient pas les favoris, mais ont tiré leur épingle du jeu et l'Australie l'a emporté, je crois, logiquement.
Pour l'instant, l'hémisphère sud fait carton plein.
Oh, voilà, il fallait s'y attendre. Hein.
Ouais, 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 ouais.
Il hein? fallait s'y attendre. Ouais. Et, bon, pour la petite histoire et la petite anecdote, le Portugal a encaissé 108 points hier devant les Blacks, mais c'est bien. C'est bien, moi je suis ravi que le Portugal se soit qualifié pour cette Coupe du Monde. Voilà, tiens, un pays émergent et un pays qui va progresser, parce que n'oublions pas que c'est un pays qui a une forte équipe de rugby à 7 et qui sait manier le ballon, et s'ils prennent un petit peu de métier au niveau du PAC, je crois qu'il faudra compter avec eux.
Donc 108-13, effectivement, hein. C'est pas le plus gros carton de l'histoire. Le plus gros carton de l'histoire, c'est le
112 à 0 ou 113.
143, pardon. Ouais, c'est vrai, 143-0. C'était justement contre la Namibie. Hein.
Contre la Namibie,
ouais,
oui.
Ouais, ouais. Alors on va quand même rappeler aussi qu'entre-temps, les Portugais avaient été battus 56-10 contre l'Écosse. Italie-Roumanie, courte victoire des Italiens, 24-18.
Ah oui, l'Italie marche à côté de ses pompes actuellement. Bon, je ne sais pas ce qui leur arrive. Berbiz doit se retourner. Il doit devenir fou parce que il laisse compter une grande Coupe du Monde pour les Italiens. Et puis, j'ai l'impression que non, c'est pas leur année.
Alors dans le groupe D,
pour réagir un petit peu à ce comportement de l'équipe italienne, je crois que les Irlandais sont un peu dans la même configuration.
Oui, justement, ouais, on va en parler.
Manque de jeu, les joueurs Tello, O'Driscoll, Darcy, tout ça, on les voit pas. Ouais. Il manque d'essence, quoi, j'ai l'impression.
Oui, et dans toutes les lignes, en plus, c'est ça qui est un petit peu surprenant, parce que quelquefois, on pourrait se dire qu'il y a 2, 3, 4 lignes qui sont plus faible pour des raisons diverses, mais là c'est dans toutes les lignes. Hier on a vu quelque chose d'assez nouveau, quoi, de la part des Irlandais, quoi. Ça fait belle lurette que j'avais pas vu des Irlandais aussi faibles, quoi.
Ouais, ça nous rassure.
Monsieur veut parler, je crois, là-bas.
Allez. Oui, voilà, Christian Rieux, qui est aussi parmi nos témoins sur le mondial.
Bon, je pense qu'on peut déjà faire un petit constat, c'est que les nations du Sud, et on l'a dit tout à l'heure, sont nettement au-dessus des nations du Nord. Bon, il y a des équipes qui ont une puissance, la puissance c'est la force multipliée par la vitesse, nettement supérieure aux autres. Bon, on peut dire que les Blacks sont au-dessus, l'Australie et l'Afrique du Sud. Bon, si on revient à la France, l'objectif de la France, c'était de gagner la Coupe du Monde. Moi, je dirais que c'est la grenouille qui a voulu être plus grosse que le bœuf. Le constat de Mazot et de Laporte a été le suivant. Par rapport à...
La compétition n'est pas terminée. Hein.
Par rapport à ce qui s'est déjà passé, ils ont fait le constat qu'on manquait de densité physique. Toute la préparation a consisté à essayer de réduire ce déficit par rapport au Sud. Malheureusement, on a oublié le ballon. Le rugby, d'abord un sport de ballon, et c'est pour ça qu'on a eu un résultat lamentable en perte de balles, en approximation méthodologique et tactique. Bon, donc, il y a cette... cet écart entre les nations du Sud et du Nord qui sera, à mon avis, difficile à combler. Et quand on voit le pays de Galles hier qui à Cardiff, hein, qui n'a pas pu bouger face à l'Australie, hein, mais ils ont levé le pied, hein. On peut se poser des questions.
Alors, une petite réaction peut-être de nos intervenants. On va simplement rappeler, effectivement, Jean-Michel, hein, on a dit que l'Irlande donc avait difficilement battu la Géorgie hier 14 à 10. Ça a été le cas aussi, elle n'a pas véritablement survolé son sujet aussi contre la Namibie, hein, 32-17. Donc c'est plutôt bon signe pour nous, ça. Hein.
Ben, c'est ce que je disais pour répondre à ce monsieur. Je lui disais, attention, on n'est qu'au début de la compétition et je pense qu'on est en droit d'assister à un sursaut de l'équipe de France et peut-être que cette équipe de France, peut-être, je dis bien, en croisant les doigts comme toute la communauté d'Ovalie, peut-être que c'est eux qui vont rivaliser avec l'hémisphère sud. Ouais, c'est peut-être ça. Eux qui risquent de tirer leur épingle du jeu et je ne vois qu'eux actuellement. Oui. Je ne vois que dans l'hémisphère nord. Je pense qu'au niveau de la densité physique, parce que ce qu'on a vu contre l'Argentine, c'est pas l'équipe de France. C'est pas l'équipe de France. Il y a plusieurs paramètres qui ont joué. On en parlait ce matin hors antenne. Il y a eu des erreurs de préparation psychologique colossales. Et je répète ce que j'ai dit lors de ma première, lors de la première émission de Rally. Rappelez-vous que Pichot, le demi de mêlée argentin qui joue au Stade Français, est entré dans le vestiaire des Bleus juste avant pour embrasser ses copains. Et il en est ressorti, et dans le couloir, avant de pénétrer dans son propre vestiaire, il a eu un moment d'hésitation avant de rentrer, parce qu'il s'est dit « qu'est-ce que je vais raconter à mes copains dans mon vestiaire ?» Pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans le vestiaire des Bleus, et là il s'est rendu compte qu'il y avait un silence total. Les joueurs étaient complètement pétrifiés. Il dit « c'est la première fois de ma vie que je voyais un vestiaire comme celui-là ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, attendez, ça va plus loin. C'est que quand il est rentré dans son vestiaire, il a dit à ses copains « aujourd'hui, on gagne ». Il savait que c'était pas l'équipe de France qu'il avait en face de lui. Que c'était des fantômes, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement dans leur tête? On met plusieurs choses, la dramatique de la lettre de Guy Moquet, on peut tout envisager. Il y a tout un tas de paramètres qui font que. Mais, en tout cas, ça a fait que.
Voilà. Ouais. Et pour l'instant, donc, c'est l'Argentine très largement en tête. L'Argentine qui avait aussi cette semaine battu la Géorgie 33-3. Hein.
Oui, mais avec beaucoup de mal.
Ouais, c'est pareil.
L'écart est important au niveau du score, mais par contre, quand on regarde bien ce qui s'est passé et le match, ça n'a pas été si facile que ça. Hein.
Oui, justement, Jean-Michel, on s'aperçoit que les équipes qui découvrent le rugby, hein, ces petites équipes, entre guillemets, elles tiennent à peu près 60 minutes et ensuite, c'est les 20 dernières minutes qui font la différence.
C'est normal. Ouais. À part peut-être la Géorgie qui sort un petit peu du lot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces pays émergents n'ont pas cette culture du pack
que
toutes les autres équipes ont, y compris l'Italie même, qui commence à avoir une certaine culture du pack qui n'existait pas il y a 5 ans. Chez eux, ça n'existait pas.
Monsieur. Oui, peut-être.
Ce qu'il faut noter, je crois, à propos des Géorgiens, ce sont quand même des athlètes hyper forts devant. C'est l'équipe, à mon avis, des pays émergents qui est la plus puissante au niveau du PAC. Et cette équipe a fait complètement déjouer ces Irlandais. Elle les a pris sur leur point fort, qui est un peu la mêlée. Et la Géorgie n'a pas passé son temps à parcourir le terrain partout. Donc ils se sont un petit peu économisés aussi. Et effectivement, sans jouer au ballon derrière, ils ont pas relâché des ballons, ils n'ont pas donné l'occasion aux trois quarts irlandais aussi de pratiquer le jeu qu'ils peuvent pratiquer en temps normal. Quoi. Mm-hmm. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais.
Alors, j'aimerais savoir ce que votre collègue, parce que tu vas nous les présenter, Jean-Luc, quand même.
Oui, tout à fait. Philippe, donc tu m'as demandé d'amener un petit peu des gens. Et
tous les dimanches,
qui,
hein, jusqu'au 21
octobre. Qui étaient sympathisants au rugby. Donc aujourd'hui, j'ai amené mes collègues du club de Rambouillet qui s'occupent de l'école de rugby. Très bien, d'ailleurs, depuis maintenant presque 10 ans, ou 10 ans, 12 même. Voilà, la 12e année. Donc ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble au club de Rambouillet. Donc c'est Michel Cantarelli et Michèle Cantarelli, épouse. Voilà, qui Michel a été le premier à nous rejoindre et son épouse a beaucoup travaillé dans l'ombre aujourd'hui. Avec le vu l'essor que prend le rugby, on a de plus en plus besoin aussi de bénévoles, de bonnes âmes. Et Michèle aussi, progressivement, je crois qu'elle va s'investir au niveau des petits. Et ma foi, ça fait hyper plaisir de voir que non seulement on peut faire beaucoup de travail dans l'ombre, mais de temps en temps un petit peu ressortir et puis justement accompagner ces jeunes sur les terrains, quoi. C'est une satisfaction tout à fait personnelle.
Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'on a dit ce matin avec Jean-Michel et puis que Christian Rieux, là, comment ils vivent ce mondial et qu'est-ce qu'ils en pensent de ces premiers matchs, de ces deux premières semaines? Parle bien en face, s'il vous plaît.
Ce que j'en pense, oui, c'est un peu rejoindre l'opinion de tout le monde, mais bon, surtout que l'équipe de France, voilà, c'était le match raté, et puis j'espère qu'il n'y aura que celui-là, et ça y est, c'est pas fini, voilà. Au contraire, tout va recommencer ce soir. Et voilà, c'est vrai qu'on est la seule équipe, je pense, de l'hémisphère nord à pouvoir rivaliser avec ceux du sud, et on va le prouver. Oui, bien sûr, on est là pour ça.
D'accord. Et quelles sont les autres équipes qui vous ont impressionné? L'Afrique du Sud, je suppose.
Oui, l'Afrique du Sud, oui, tout à fait. Bon, donc les Blacks, évidemment, sont peut-être les favoris, mais beaucoup moins, je pense, et l'Afrique du Sud est en bonne progression, et ils sont plus que favoris.
Alors Michel, voilà.
Ben moi, donc je rejoins aussi l'opinion de tout le monde. Hein. Mais la France n'est pas. Il ne faut pas enterrer les Français. Je les soutiendrai, je les ai soutenus lors du match France-Argentine et je les soutiendrai pour les autres matchs et je les soutiendrai jusqu'au bout.
Il y aura un match référence en quart de finale, je suis sûr.
Voilà. Sinon, les autres équipes, pareil, les All Blacks, bien entendu, je crois, sont, on va pas dire imbattables, parce que non, il n'y a pas de raison. Mm-hmm. Bon, l'Afrique du Sud, bien entendu. Mm-hmm. Moi, j'ai été, le peu de technique que je connais du rugby, même si je suis à fond dedans, les Italiens m'ont fait plaisir.
Ah, malgré l'idée, ouais.
Oui, mais j'ai
pas trop facile,
mon frère. Oui, mais j'ai bien aimé le match. Mais bon, après, je suis pas très technique, donc.
D'accord. Donc voilà. Alors Christian Rieux voulait rajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure, Christian.
Oui, je voulais rappeler une constante de rugby. Les gens qui ont joué au rugby savent une chose, c'est que le rugby commence devant. Moi, je jouais trois quarts, hein, j'étais ailier. Bon, j'ai joué en National 1. Hein. Bon, on sait très bien que lorsqu'on recule devant ou lorsqu'on est en difficulté, ça devient compliqué. Et Pichot a eu cette formule, les matchs se gagnent devant et derrière, on additionne les points. Bon, ça c'est une première chose.
C'est très juste.
Ce soir, il faut bien faire attention de ne pas prendre le rugby à l'envers. Même contre la Namibie, il faut déjà essayer de les bousculer devant. Alors, lorsqu'on a vu des petites nations, dites des petites nations, comme la Géorgie et d'autres, c'est qu'elles embrouillent devant, hein, surtout dans le jeu au sol, les rucks. Hein, bon.
Oui, mais très peu de fautes.
Oui, très peu de fautes, oui.
Très peu de fautes, parce que c'est toujours. Oui, c'est plutôt de la chacaillerie que de la faute. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartons jaunes, hein, depuis le début. Il y en a 11 cartons jaunes, c'est pas beaucoup. Hein. Oui. Donc il n'y a pas beaucoup de fautes. Hein.
Alors, moi je dis, le rugby commence devant. Alors, et le constat qu'on peut faire aujourd'hui aussi, c'est l'importance du jeu au pied. Oui. Bon, on s'est aperçu, même l'Afrique du Sud a promené les Anglais et l'Angleterre par la qualité du jeu au pied et la qualité de la botte de Montgomery, le joueur qui va jouer à Perpignan. Hein. Donc, moi j'ai des craintes. Bon, étant donné que je connais un peu les forces des joueurs en présence, pour Michalak, qui n'est pas un spécialiste du jeu au pied, qui n'est pas très performant de ce côté-là. Il me semble que c'est très important d'avoir un jeu au pied de qualité. Même les Blacks, dans les coups de pied et des placements, ils ont un jeu au pied millimétré. Mmh. Ça bon, peut être une constante avec bien sûr cette occupation du terrain qui est nécessaire aujourd'hui. Il faut jouer chez l'adversaire avant de pouvoir prétendre à élargir.
Alors on va en reparler si vous voulez parce que de Michalak, parce que je crois que c'est l'élément important de ce soir. Parce qu'on l'a vu, on l'a constaté contre l'Argentine, son entrée a fait beaucoup de bien. Et Michalak, bon, c'est pas Dieu tout puissant, hein, mais on va en parler parce que c'est un garçon qui a un cheminement depuis quelque temps qui est assez particulier. Alors, si vous voulez bien, il est minuit, mais le crime a déjà eu lieu. Les Pumas viennent de croquer la France le jour de l'ouverture de la chasse. Vilaine morsure, plaie béante. Dans les entrailles du Stade de France, Frédéric Michalak, un requin dans la Garonne, marche comme un zombie dans cette zone mixte où on mélange les joueurs avec les journalistes. Sans trop secouer, une barrière sépare les deux castes, histoire d'accentuer cette désagréable impression d'être au zoo. Un zoo où on ne sait plus très bien qui doit donner à manger à l'autre. Entrer à l'heure de jeu pour remplacer un Skrela hors service, HS, vraiment Skrela, match pitoyable. Une pénalité manquée, Fred, impact player désigné par la porte, n'a pas pu sauver la patrie face à ces mauvais Argentins. Car Michalak, un requin dans la Garonne, comme tous les surdoués de son espèce, est supposé faire des miracles à la demande. C'est pas aussi simple. Le demi d'ouverture a le visage fermé comme une porte de prison, mais c'est quand même moins impressionnant que celui de Pelouse, livide, passé devant nous quelques minutes plus tôt. Labellisé star ou pas, étoile au firmament ou simple soldat, Michalak, un requin dans la Garonne, est toujours accessible pour parler boulot. Et lucide. Écoutez bien ce qu'il dit. Les Argentins ont été plus intelligents que nous. Nous sommes des petits, des rien du tout. En fin de semaine, à Marcoussi, il confirmera même ses propos. Certains se sont vus champions du monde avant de l'être. Avant ce match contre les Argentins, on nous parlait de la finale contre les Blacks. Maintenant, les Blacks, on espère les jouer en quart de finale. Et si on perd un des trois prochains matchs, ce sera devant la télévision. Comme quoi, les choses tournent rapidement. C'est lui qui dit ça. À bientôt 25 ans, le 16 octobre prochain, il le sait plus que nul autre. Cette saison, le vendredi 10 novembre, à l'occasion de la 13e journée du Top 14, il fait son retour à la compétition après 2 mois d'absence. Des cierges ont été allumés pour que son genou tienne. Et à la 35e de ce match contre Bourgoin, c'est le pépin. C'est le gros pépin. Rupture du ligament interne. Adieu le tournoi Destination. Il sera de retour le vendredi 11 mai, soit d'un certain 47-0 encaissé par le SUA. Son dernier match au Vallon Emotion. Et puis il y aura sa dernière sortie avec le Stade Toulousain au Vélodrome de Marseille. Un très mauvais souvenir. Bref, une saison galère. Même si sa passion pour l'Afrique lui a sûrement fait comprendre le sens du terme « fatalité », Frédéric Michalak, un requin dans la Garonne, est un compétiteur né. Autant dire que sa titularisation ce soir au Stadium, endroit mythique, est une aubaine pour celui qui a signé chez le club sud-africain des Natal Sharks, où il retrouvera Kees Lenting, capitaine de la Namibie. Chez lui, à Toulouse, devant son public, Michalak, un requin dans la Garonne, sera comme un requin dans la Garonne dans la Garonne. Je veux faire avancer l'équipe, assure-t-il. Je vais essayer de respecter le jeu et essayer de faire une belle partie sans me demander si je vais jouer par la suite ou non. J'ai envie de prendre du plaisir. Toulouse aussi, mais nous aussi. Hein.
Oui. Alors Jean-Michel, justement, il nous reste 4 minutes. Les changements dans l'équipe de ce soir, ils étaient indispensables?
Il y a 30 joueurs
oui.
qui se valent. Tous. Il n'y en a pas un qui sorte du lot à un poste. Bon, il y a peut-être un numéro 1 et un numéro 2. Bon, quand on sait que Zarzewski veut prendre la place d'Ibanez et devenir numéro 1, c'est pas... pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que ces changements ne sont pas des changements fondamentaux, c'est pour rejoindre ce qu'on disait la semaine dernière. C'est pas fondamental. Il y a 30 joueurs, on peut faire 2 équipes. On peut faire royalement deux équipes, aussi bien devant que derrière. Donc je ne vois pas... ça peut peut-être changer quelques... par exemple, il n'aurait pas fallu mettre Mignoni avec Michalak. Ça non.
Oui.
Donc le staff a préféré associer Elissalde et Michalak. C'est plus naturel, je dirais. Mais bon... c'est pas fondamental.
Il manque pas un patron à cette équipe, un leader, un Didier Deschamps par exemple, un meneur d'hommes.
Il y a Ibanez. Il y a Ibanez.
Oui, mais il a suffisamment de...
Ah oui.
Il n'est pas assez effacé par moment.
Ibanez a du charisme, hein, et puis il a beaucoup d'autorité sur l'équipe. Bon, c'est le Didier Deschamps. C'est le Didier Deschamps. Alors évidemment à sa manière. Hein, mais c'est un sacré meneur d'hommes. Hein, et puis de respecter. Hein.
Ouais. Christian, il nous reste 3 minutes, donc très vite, de toute façon, vous aurez l'occasion de vous réexprimer les prochaines semaines. Hein.
Voilà, moi je voulais souligner peut-être une chose qui passe peut-être inaperçue, c'est qu'il y a sans doute un coup de pied à suivre de Laporte en direction d'Ibanez. Si vous observez la composition de l'équipe et les remplaçants, on s'aperçoit qu'Ibanez, ce soir, est sur le banc.
Oui.
Alors, le capitaine est sur le banc. Ça doit quand même interroger. Alors qu'il y a Bruno, qui n'a jamais joué. Donc, on peut mettre Serzinski talonneur, mais mettre le capitaine sur le banc alors qu'il y a un talonneur qui n'a pas joué, ça, on peut s'interroger.
C'est un petit clin d'œil, à mon avis. C'est un petit clin d'œil. Coup de pied à suivre, ça me plaît. Votre terme me plaît. Coup de pied à suivre en direction d'Ibanez. Oui, peut-être. Peut-être. C'est peut-être... Il veut peut-être lui adresser un signe. Il veut lui adresser un signe en lui disant « Attention, tu as peut-être failli à certaines obligations que tu avais. » Et puis voilà, quoi.
Très bien, merci. Donc, le programme d'aujourd'hui à Cardiff, Fidji, Canada, à partir de 14h. Ensuite, donc, Samoa, Tonga, le match dont parlait Jean-Michel.
Ouais, il faut l'enregistrer, celui-là.
À partir de 16h à Montpellier. Et puis, ce soir, donc, France-Namibie. On va être tous derrière les Bleus. Voilà. Donc, ça sera à 21h. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc, pour un Tribune Rugby entre 10h et 11h. Et auparavant, naturellement, Tribune Sport, on aura retrouvé nos studios. N'oubliez pas, donc, cette belle après-midi de foot sur Poigny-la-Forêt. Il y a tout plein de choses. Aujourd'hui, très rapidement, Jean-Luc, il reste 30 secondes.
Écoute, Philippe, je souhaiterais une prochaine fois réinviter Michel, éventuellement, où là, on aura un petit peu plus de temps et on pourra parler des jeunes.
Ils ont jusqu'au 21 octobre. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci, Christian. Le générique de fin, je ne sais pas si c'est Tribune Sport ou Tribune Rugby, peu importe, le générique de fin. Et ensuite, donc, on vous laisse en musique, puis avec l'émission de Jean-Marc, donc, en route vers les étoiles. Bon dimanche et à la semaine prochaine.